Je m'appelle Natacha Callens, je travaille pour l'Agence spatiale européenne, l'ESA, dans le département d'éducation et je participe au programme ESA Academy qui est dédié aux étudiants universitaires de nos pays membres et associés.
Alors, quel a été votre parcours d'étudiante et le sujet de votre thèse de doctorat?
Alors, quand j'ai fini l'école secondaire, donc après l'équivalent de la terminale en Belgique, je voulais faire des études scientifiques, mais je ne savais pas trop vers quelle matière m'orienter. Et donc, j'ai décidé de m'éloigner de mes parents et de partir à Paris pour réaliser ce qui s'appelait à l'époque un doc en sciences de la matière à Paris 11 à Orsay, parce que ça me permettait en fait la première année de toucher un peu toutes les sciences et la deuxième année, je me suis spécialisée en physique. Ensuite, à l'époque, il n'y avait pas encore les masters comme maintenant, mais il y avait les précurseurs qui s'appelaient les magistères. Et donc, j'ai réalisé un magistère de physique fondamentale, toujours à Paris 11, pour la première année. C'était des études sur 3 ans. Et en deuxième année, je suis partie faire un Erasmus à Lisbonne. En fait, pendant mon enfance, j'avais habité au Portugal et donc je parlais aussi le portugais, ce qui m'a permis donc de faire cet Erasmus, parce qu'à l'époque, les Erasmus n'étaient pas tous donnés en anglais. Et puis, la dernière année, je suis revenue à Paris et là, j'ai réalisé un DEA en mécanique des fluides à Paris 6, donc à Jussieu. Et quand j'ai eu fini donc l'équivalent de mon master, ben, pour moi, c'était assez logique de continuer en tant que scientifique sur une thèse de doctorat. Et donc, j'ai eu la chance de réaliser un doctorat en co-tutelle, ça s'appelle un double doctorat. Entre Paris 6, au laboratoire de physique des milieux hétérogènes de l'ESPCI de la ville de Paris, et le MRC, le Microgravity Research Center à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Donc en fait, j'avais un promoteur dans chaque université. Mon doctorat était dans le domaine des sciences séparatives. En particulier, j'étudiais les mécanismes qui sont à la base de la séparation en continu sans membrane. Donc, pour simplifier, en gros, j'ai travaillé sur un petit système qui n'avait pas de membrane à l'intérieur. Donc, j'avais deux entrées, deux sorties et j'avais une marche à l'entrée et à la sortie. Et en fait, on injectait dans le système un liquide avec des microparticules. Donc, pour vous donner un exemple, un cheveu, c'est 100 microns. Et moi, mes particules, elles avaient entre 10, 50, 100, 200 microns. Et l'idée, en fait, c'était d'étudier ce qui se passait à l'intérieur de ce système sur ces particules. Donc, dans le cadre de ma thèse de doctorat, je me suis un peu approchée, on en parlera sûrement plus tard, de mes objectifs en tant qu'évolution et que carrière, parce que j'ai eu l'occasion de réaliser pas mal de vols paraboliques, qui sont des vols où l'avion réalise des paraboles et à chaque parabole, on a une vingtaine de secondes de micro-pesanteur. Donc, on se sent comme un astronaute. Et donc, j'ai pu réaliser mon expérience et voir qu'est-ce qui se passait sur mon système lorsque on annulait plus ou moins l'effet de la gravité. À la fin de la thèse, j'ai eu la chance que le système que j'avais développé a été breveté parce qu'on avait pu identifier des applications, par exemple la dépollution des rivières ou la séparation des plaquettes du reste du sang. Parce que généralement, quand on sépare les plaquettes avec une centrifuge, il y a une membrane et en fait, on en perd beaucoup. Et avec ce système, l'idée, c'était que on aurait eu moins de pertes.
Alors, quel a été votre parcours professionnel?
Au niveau de ma thèse, déjà, j'avais commencé en fait à travailler avec des collègues sur un projet ESA, ça s'appelle un projet PRODEX, qui s'appelait BioMix, ça veut dire Biomimetic and Cellular Systems. Et quand j'ai fini ma thèse, en fait, on m'a proposé de rester et travailler sur ce projet en tant que chercheur. Donc, on peut considérer ça un peu comme un postdoc, même si officiellement, c'était un travail et pas un postdoc. Et donc, mon travail consistait à participer activement au développement d'une charge utile, d'une expérience, si vous voulez, qui serait réalisée dans une fusée sonde. Donc, pendant 3 ans, j'ai travaillé en partenariat avec les deux universités où j'avais fait ma thèse, donc l'Université libre de Bruxelles, l'Université Paris 6, mais aussi avec l'Université de Grenoble. sur le développement de cette expérience scientifique, mais aussi avec l'ESA qui finançait l'expérience et qui payait en partie mon salaire. Et puis, une société suédoise qui s'appelle SSI, qui, elle, allait construire, en fait, la charge utile. Donc, j'aime toujours raconter qu'en fait, j'ai travaillé 3 ans de ma vie pour 6 minutes, de gravité réduite, parce que cette fusée Mazer-11 a été lancée après 3 ans de travail, depuis Kiruna, en Laponie, ça se trouve dans le nord de la Suède. Et en fait, lors de son vol, elle monte jusqu'à environ 200-300 km d'altitude. Et pendant plusieurs minutes, la charge utile est en microgravité et donc on obtient des résultats scientifiques. Cette expérience a été un succès. Et donc après ça, en fait, j'avais deux possibilités devant moi. La première, c'était de participer à BioMx 2, qui serait lancé sur une future fusée Mazer, ou de décider de faire autre chose. Et en fait, j'ai toujours été plutôt appliquée. Donc, ce que j'avais aimé dans mes études et dans ce premier travail, c'était de travailler dans le labo, de vraiment faire les expériences moi-même. Mais mon équipe me racontait toujours, me disait toujours, bah, tu sais, tu es bonne en recherche, mais tu es aussi très bonne en gestion d'équipe, en gestion de projet. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais et où je voulais me développer. Et depuis toute jeune, j'avais toujours voulu travailler à l'ESA. Et par hasard, je suis tombée sur un appel à candidature pour rejoindre le département d'éducation à l'ESA et mettre en place en fait des programmes pour les jeunes pour qu'ils puissent réaliser leur expérience scientifique ou démonstration technologique sur différentes plateformes auxquelles l'ESA avait accès. Les vols paraboliques, comme j'avais eu l'occasion de faire, les fusées sondes, comme j'avais eu l'occasion de faire, mais aussi d'autres plateformes. Et je me suis dit, ben, mon job, c'est ça. Voilà, j'aimerais vraiment faire ça parce que moi, j'ai eu cette chance en étant jeune. Et voilà, je voudrais aider à ce que d'autres jeunes aient cette chance également. Et donc, j'ai rejoint l'ESA en tant que consultante. Au début, j'étais basée à l'ESAC, près de Madrid, en Espagne. Donc ça, c'est le centre de l'ESA pour tout ce qui est astronomie spatiale. En fait, c'est là-bas qu'on fait les opérations scientifiques des missions planétaires. Et c'est là, en fait, qu'on collecte les données scientifiques et qu'après, elles sont mises à disposition du public et puis archivées. Ensuite, après 3 ans, j'ai été transférée dans notre centre aux Pays-Bas, à l'ESTEC, près de La Haye. Là, c'est plutôt notre centre de recherche des technologies spatiales. C'est notre plus gros centre et c'est là que la plupart des projets de l'ESA sont nés et que les personnes travaillent sur les différentes phases du développement des missions. Je vous raconte tout ça pour vous dire que voilà, j'ai pas mal aussi bougé pendant ma carrière et c'était très enrichissant. Et il y a tout juste 8 ans ce mois-ci, j'ai passé du statut de consultante, donc ça veut dire que je travaillais à l'ESA, mais pour une société extérieure, et je suis à ce moment-là devenue staff ESA. Donc ça, c'est un contrat en fait de fonctionnaire européenne, et j'ai été recrutée pour travailler à l'ESEC. Donc j'ai encore déménagé avec toute ma famille, cette fois-ci en Belgique, donc mon pays d'origine. Et notre centre se trouve à peu près à mi-chemin entre Bruxelles et la ville de Luxembourg au Luxembourg. Et ce centre est le centre d'excellence pour tout ce qui est cybersecurity au niveau spatial, mais aussi c'est le centre de contrôle des missions Proba et le centre de formation de l'éducation. Et donc là, ma tâche a été, après m'être occupée de projets pratiques pour les étudiants, en fait, de développer un centre de formation pour les étudiants universitaires. L'idée, ce n'est pas du tout d'être en compétition avec les universités, mais plutôt de complémenter ce que les jeunes apprennent à l'université dans les domaines spatiaux, en ayant un transfert direct en fait, des connaissances des experts aux étudiants, qui puissent partager leur savoir-faire et leurs compétences. Et donc, nous offrons des formations généralement d'une semaine. Offert par différents experts qui viennent de l'ESA, mais aussi du monde académique et de l'industrie. Et les étudiants, en fait, passent une semaine sur une thématique. À la fin, ils sont évalués par un projet de groupe ou un test en ligne et ils repartent avec un certificat de participation et ce qu'on appelle un course transcript, qui est en fait un résumé des cours auxquels ils ont participé, des autres activités et leur évaluation, de manière à ce qu'ils puissent demander un crédit pour leur participation à leur université. Et il y a quelques jours, j'ai commencé un nouveau travail, toujours au sein de l'éducation et de l'ESA Academy. En fait, ce travail a pour but de mettre en place des nouveaux modèles de collaboration au sein de l'ESA avec les autres directorats et départements, mais aussi avec le monde académique et institutionnel, avec les entreprises du spatial. L'idée, en fait, c'est de contribuer ensemble à la préparation des futurs talents en termes de connaissances et de compétences, parce que le monde spatial et le monde des technologies évoluent très rapidement, et donc on veut travailler. Et il faut qu'on travaille ensemble pour former la future génération. Ce qu'on veut, c'est organiser des événements ou des formations ensemble, mais aussi mettre en place des bourses d'études ou faciliter des stages en entreprise, augmenter par exemple le parrainage des étudiants afin qu'ils puissent participer à des conférences internationales et développer leur network.
Avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiante ou professionnelle qui vous a influencé pour vous orienter sur votre carrière d'excellence au sein de l'ESA?
Alors, je ne dirais pas que j'ai eu une rencontre particulière, mais plusieurs rencontres qui ont marqué mon parcours au cours du temps. Alors, je crois que ça, c'est trop long que je les partage tous avec vous. Donc, je pense que le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui m'a menée à mon job aujourd'hui et donc les premières rencontres qui, pour moi, je pense, ont été les plus marquantes. Donc, la première, ce n'était pas avec une personne, mais avec un magazine. Donc, il faut que vous reveniez en arrière. Vous dites qu'au moment où moi, j'ai fait mes études, c'était vraiment le début de l'utilisation par Monsieur Tout-le-Monde de l'ordinateur, le début de l'Internet. Donc, en tant que jeune étudiante au niveau secondaire, ben, pour trouver l'information, qu'est-ce que je faisais? J'allais à la bibliothèque. Et en allant à la bibliothèque de mon école, je suis tombée sur un magazine qui s'appelait Space Connection. Et j'ai eu l'excellente idée de l'ouvrir et de le feuilleter. Et en fait, après ça, ben, c'est devenu mon magazine préféré. Ça a été ma découverte avec le monde spatial. Et à partir de là, j'ai su que, voilà, un jour, mon rêve, ce serait de faire une carrière dans le spatial. Et donc, après ça, en Belgique, il existe un programme qui s'appelle Un jour, un métier. Et on peut s'inscrire en disant, ben voilà, j'ai 16, 17, 18 ans et j'aimerais découvrir un métier. Et donc, j'ai eu dans ce cadre-là l'occasion unique à l'époque de rencontrer le premier astronaute belge qui s'appelait Dirk Vreemoot et qui était physicien. Et donc, cet échange avec lui a été vraiment déterminant pour moi. Et évidemment, à partir de là, mon rêve était de devenir astronaute, même si mes parents ont toujours été présents, m'ont fait garder les pieds sur Terre et m'ont dit, écoute, c'est bien d'avoir des rêves. Peut-être tu y arriveras, peut-être tu n'y arriveras pas, parce qu'être astronaute, c'est encore plus rare que de devenir président, si je prends la France comme exemple. Mais il faut poursuivre ses rêves et tu verras où ça te mènera. Et après ça, c'était déjà au niveau universitaire, j'ai eu comme professeur Monsieur Jean-Pierre Bibring, qui est un astrophysicien et professeur de physique à Paris 11. Et il est entre autres le coordinateur scientifique de la sonde Philae, le célèbre petit robot transporté par Rosetta qui s'est posé en novembre 2014 sur la comète Chury. Et en fait, c'était un professeur très inspirant, mais aussi un professeur très ouvert à ses étudiants et à l'échange avec ses étudiants. Et en fait, un jour, je parlais avec lui et voilà, je lui ai parlé de mon rêve de devenir astronaute. Et là, il m'a dit, bah, tu sais, moi, je connais très bien Jean-Pierre et Claudie Aigneret, donc deux astronautes français qui travaillaient à l'époque au centre de formation des astronautes européens. Et il m'a dit, si tu veux, je te donne leur numéro de téléphone. Alors moi, du haut de mes 19-20 ans, j'étais là, OK, bon, il va me falloir beaucoup de courage pour appeler, mais j'y suis arrivée, j'ai appelé, mais évidemment, on tombe sur la secrétaire, on rappelle, on tombe sur la secrétaire, on rappelle, on tombe sur la secrétaire, mais je crois, après que j'appelle, je ne sais plus combien de fois, finalement, un jour, je reçois un appel et c'était Claudie Aigneret avec un autre collègue qui m'appelait et qui disait, ben voilà, il semblerait que tu aimerais beaucoup me parler. Donc voilà, c'est ton occasion. Et là, je lui ai dit que voilà, mon rêve, c'était de devenir astronaute, mais surtout de découvrir le monde du spatial et l'ESA. Et elle m'a proposé de faire un stage de 6 semaines au centre de formation des astronautes. Et voilà, ça a été aussi une expérience assez incroyable et qui m'a vraiment déterminée dans la carrière que je voulais faire. Après, pour ne prendre qu'un exemple, parce qu'il y en a eu beaucoup au niveau de ma carrière professionnelle, je dirais que la personne qui m'a le plus inspirée, c'était mon premier chef, donc la personne qui m'a fait rentrer à l'ESA en tant que consultante, donc tout au début au département de l'éducation. Il s'appelle Javier Ventura. Et qu'est-ce qui m'a appris, en fait, c'est comment gérer une équipe. En fait, grâce à lui, j'ai pu voir l'importance que chacun doit trouver sa place dans l'équipe, doit avoir un rôle clair et qui lui plaît, et que c'est important, en fait, de donner la confiance à son équipe, leur laisser assez de liberté pour se développer, pour réaliser leurs tâches, mais surtout que le point le plus important, c'est la communication entre les différents membres de l'équipe et le management.
Alors, au vu de l'excellence des formations que propose, qui sont proposées à l'ESA, quels sont les challenges du centre de formation au regard de l'excellence de l'ingénierie spatiale non négligeable qui se développe en dehors de l'Europe? Exemple, en Chine, en Inde, aux États-Unis, au Japon, mais aussi en considérant les différentes crises présentes dans de nombreux pays qui rendent difficile la formation et l'apparition de véritables nouvelles élites scientifiques.
Je dirais que depuis plusieurs années, le monde de l'éducation est en pleine évolution, donc que ce soit en termes de méthodologie ou de digitalisation. En fait, l'éducation devient beaucoup plus interactive, personnalisée, mais aussi multidisciplinaire, et elle se base en fait plus sur des compétences spécifiques. J'ai vu au cours des années l'importance qu'on donne maintenant à ce qu'on appelle les soft skills. Par exemple, la créativité, l'intelligence émotionnelle, le leadership, la capacité à prendre des décisions, l'adaptabilité, etc. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle les compétences du XXe siècle. Donc, ça, c'est très important et c'est quelque chose qu'au niveau de l'éducation, on tient compte et qu'on évolue dans la manière et dans les méthodologies qu'on utilise pour préparer au mieux les talents de demain. D'autre part, pour revenir au monde du spatial, ben, le monde du spatial, il est en pleine évolution avec l'apparition des nouvelles technologies. On peut citer l'intelligence artificielle, par exemple, mais aussi l'importance par rapport aux autres grandes puissances que vous citiez pour l'Europe de rester compétitive au niveau commercial. Donc pour cela, au niveau de l'éducation, en fait, on a mis en place une stratégie d'évolution de notre programme qui s'appelle Space for Education 2030. L'idée, évidemment, de maintenir les activités qui existent, mais de les adapter, en fait, et de développer en parallèle de nouvelles opportunités. Parce que le but qu'on a, ben, c'est d'aller vers l'avant, donc c'est de préparer la nouvelle génération pour des métiers, ben, qui n'existent sûrement pas, pour des technologies qui n'ont pas encore été développées, et même pour résoudre des problèmes qu'on n'a pas encore identifiés. Donc, pour revenir aux formations, on a développé au cours des années un portfolio très varié sur les différents domaines d'expertise de l'ESA, et ce portfolio, il est en évolution permanente en termes de sujets, mais aussi de contenu. Notre audience a été pendant les premières années principalement des futurs scientifiques et des futurs ingénieurs, mais maintenant on veut ouvrir notre audience à d'autres domaines. Ça peut être des futurs entrepreneurs, des futurs businessmen, des futurs avocats, mais aussi n'importe qui en fait qui peut bénéficier des données spatiales, des agriculteurs par exemple ou des architectes, et mettre en place de nouvelles méthodologies. Donc, par exemple pour les formations, ben, avant le Covid, toutes nos formations étaient en face à face. Avec le Covid, on a été obligé de passer en ligne, donc ça a été une grosse évolution. Et maintenant, en fait, on essaye de se développer au niveau de tout ce qui est e-learning, pour pouvoir donner l'accès à un maximum de gens. Et on espère donc, pour répondre à votre question, que tout ça contribuera évidemment au développement des talents, au niveau de l'Europe.
Très bien. Alors, comme vous l'avez souligné, sur votre parcours professionnel, vous vous êtes investi sur le développement de nombreux programmes, dont le programme Rexus-Bexus, et vous avez aussi facilité l'accès à l'avion R0G, la tour de chute libre du ZARM et la centrifugeuse de grand diamètre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces différents projets, ces différents programmes?
Oui, donc l'idée ici, c'est quand les jeunes ils finissent leurs études et ils cherchent un boulot, quand ils voient les offres de travail, en fait, souvent on demande que les jeunes aient déjà de l'expérience. Et ce n'est pas toujours facile d'acquérir de l'expérience pendant ses études. Alors, de plus en plus, c'est vrai, les études permettent la réalisation de stages. Mais ces stages ne sont pas toujours pratiques. Donc là, l'idée, c'était d'une autre manière, au sein de l'ESA Éducation et du programme ESA Académie pour les étudiants universitaires, de leur offrir en parallèle d'autres opportunités. Donc l'idée, c'est que les jeunes forment une équipe avec leurs copains, leurs collègues, et proposent une expérience scientifique ou une démonstration technologique qu'ils voudraient réaliser en microgravité ou en hypergravité ou dans un ballon stratosphérique, en plus de toutes les plateformes que vous avez déjà citées. Et nous, on fait un appel d'offres récurrent tous les ans, tous les 2 ans. Et voilà, ils appliquent à une pour réaliser leur expérience dans une des plateformes. Et avec eux, on va de leur idée au design de leur expérience. Ensuite, ils la développent au sein de leur université, donc ils doivent toujours évidemment avoir le support de leur université. Ils la testent et puis ils viennent à une campagne, donc une campagne de vol parabolique, de fusée sonde, de centrifuge. Et là, avec les personnes en charge de la plateforme, ils vont intégrer leur expérience dans la plateforme, la tester au sol. Et puis la réaliser en microgravité ou en hypergravité. Et puis, bon, ça, c'est une expérience évidemment unique pour ces jeunes, mais ce n'est pas la fin du programme. Donc, moi, en bonne scientifique, j'aime rappeler qu'il ne faut pas simplement collecter des données. Après ça, il y a encore toute une partie du travail qui est très importante, qui est l'analyse des données pour obtenir des résultats scientifiques. Et si l'expérience a été une réussite, la publication d'articles dans des journaux. Ou la participation dans des conférences. Donc, on permet vraiment aux jeunes d'aller de l'idée à la publication. On les soutient tout au long des différentes phases et on essaye vraiment de les faire participer à chaque moment, de les faire remplir la même documentation que rempliraient des équipes professionnelles afin de mieux les préparer pour leur carrière future. C'est aussi une bonne opportunité pour eux de pouvoir ré réaliser leur thèse de bachelier ou de master ou de doctorat sur le sujet de cette expérience.
Au sein des programmes de formation que vous proposez, y a-t-il des domaines où vous abordez l'importance du numérique dans l'industrie spatiale et le développement d'une industrie plus verte? Pouvez-vous citer quelques exemples?
Oui. Alors, évidemment, le numérique a énormément d'importance et son évolution, ainsi que le développement de l'industrie verte. Au sein de nos formations, on a aucun de ces deux sujets, je dirais, n'est une thématique en soi. Donc, on n'a pas une formation, par exemple, sur l'industrie plus verte, mais elles sont omniprésentes. Par exemple, pour tout ce qui est l'importance du numérique, pour chacune de nos formations, on essaie que les jeunes aient accès aux outils qui sont utilisés, aux softwares qui sont utilisés par les professionnels. On essaie qu'ils apprennent à les utiliser, qu'ils aient accès et qu'ils puissent après, si possible, continuer pour des futurs projets ou dans leurs études, à utiliser ces outils. Au niveau de tout ce qui est l'industrie plus verte, alors on a une formation qui s'appelle Clean Space. Et donc là, on essaye d'expliquer aux jeunes comment mettre en place, comment dessiner, comment concevoir une mission spatiale plus écologique. Comment moins polluer l'espace? On a une autre formation sur les débris spatiaux, donc qui couvre la problématique et quelles seraient les solutions envisagées à cette problématique. Et puis, par exemple, dans d'autres formations, on va couvrir, par exemple, tout ce qui est la propulsion verte, green propulsion, ou d'autres thématiques. Donc oui, c'est là, omniprésent, mais plutôt en arrière-plan.
Alors, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi?
Ah oui, pour moi, c'est vraiment une nécessité. Ces associations font un excellent travail, je dirais, au niveau de la vulgarisation, mais aussi au niveau de l'accès à l'information. Ça permet en fait de sensibiliser plus de monde, d'inspirer les jeunes, d'attiser leur curiosité pour les domaines scientifiques et autres, les domaines spatial également. Et puis, pas mal de ces associations proposent aussi des activités pour ces jeunes, que ce soit au sein des écoles ou en dehors. Et ça permet de développer leurs connaissances et leurs compétences, et également de les orienter pour leurs études. Au niveau universitaire, certaines de ces associations même proposent à leurs membres de former des équipes pour travailler ensemble sur des projets au niveau spatial, et par exemple de participer à des compétitions. Donc pour moi, enfin, c'est vraiment un travail très important et une nécessité au sein de notre société.
Très bien. Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et le spatial en particulier?
De ne pas hésiter à entreprendre des études scientifiques. On ne va pas se mentir, ce ne sont pas les études les plus faciles, mais ce sont des études tout à fait faisables. Il faut beaucoup travailler, mais on y arrive. Et surtout, c'est très varié. Donc, parfois, on a un peu peur d'une thématique ou d'un sujet qui ne va pas nous plaire ou on ne va pas réussir, mais finalement, ça reste assez varié. On y trouve toujours de quoi se nourrir. Ça ouvre aussi pas mal de portes. Alors, souvent, on pense que faire des études scientifiques, ça se limite à ouvrir des portes dans le monde académique ou de la recherche et du développement. Mais en fait, avec un profil scientifique, on peut faire une carrière dans plein d'autres domaines. Si les jeunes veulent s'orienter vers le spatial, je voudrais leur dire que c'est le bon moment. Pourquoi c'est le bon moment? Parce que depuis quelques années, la plupart de nos collègues partent à la retraite. Et on a vraiment besoin d'une nouvelle génération pour prendre la relève. Et c'est vrai dans les domaines scientifiques et d'ingénierie, donc les domaines STEM, les domaines techniques, mais aussi pour tout ce qui est commercial, entrepreneurship, légal, les relations internationales, la gestion des infrastructures, etc. Donc le monde du spatial, en fait, c'est un domaine beaucoup plus vaste qu'uniquement le monde technique et scientifique. Donc, si je devais donner un conseil à ces jeunes, je crois que les trois choses que je leur dirais, c'est premièrement qu'il faut croire en soi. La deuxième chose, ce serait qu'ils doivent poursuivre leurs rêves, que même s'ils n'atteignent pas tous leurs rêves, ça va les permettre de se développer, d'acquérir des nouvelles compétences, mais surtout de grandir en tant que personne. Et la dernière chose que je leur dirais, que c'est le conseil que j'aime donner, c'est qu'il faut se créer ses propres opportunités. Il ne faut pas attendre qu'elles nous tombent dessus.